Bonjour. Il y a 3 mois, le monsieur Lelay, super PDG de TF1, a dit « Je vends du temps de cerveau disponible à mes annonceurs ». Il y a 3 semaines, c'était monsieur Lévy, super PDG de Publicis, qui nous a dit « La publicité, c'est un moyen d'information. Cela permet aux consommateurs de choisir des produits en connaissance de cause ». Et ce matin même, donc il y a 3 heures, le super PDG de Schneider, monsieur Lachmann, invité de Stéphane Paoli, nous a dit « Le respect des droits de l'homme, ce n'est pas la préoccupation d'un chef d'entreprise ». Donc moi je constate que l'offensive des terroristes s'accélère. Je voulais simplement dire que j'ai 2 enfants et je voulais savoir ce que je dois leur enseigner. Si c'est les terroristes et les 3 personnes, j'ai bien peur qu'il n'ait du souci à se faire pour leurs vieux jours dans un monde peuplé de gens comme eux. Voilà, c'est Emmanuel d'Arnouville-les-Mantes.
Ce matin, j'ai entendu sur France Inter le directeur de Schneider qui était interviewé depuis la Chine. Il disait que les droits de l'homme ne sont pas une affaire de patron. J'ai la faiblesse, malgré mes 30 petites années de vie sur Terre, de croire que les droits de l'homme sont l'affaire de tous. Et je dirais à ces messieurs qu'on nomme grands, sachez que vos propos nous paraissent parfois bien petits, plus petits même encore que vos cœurs. Allez, salut, c'était Alban d'Ardèche.
L'actualité est sur le traité constitutionnel et pas un média ne rappelle qu'en 2000, messieurs Juppé, Toubon et Guémard, encore ministres, avaient proposé une constitution européenne dans laquelle figurait le référendum d'initiative populaire qui permettait d'abroger une loi, d'une directive, pardon, ou d'en proposer une nouvelle. Pas un média n'en parle. L'actualité est également sur la Turquie et les EGM. Et pas un média ne rappelle qu'en 1993, tous les partis du Front National aux communistes avaient le référendum d'initiative populaire dans leur programme et Chirac l'avait même promis dans l'année 93. Si on avait ce référendum d'initiative populaire, évidemment, le sujet de la Turquie et des OGM et bien d'autres pourraient être soumis directement aux Français pour qu'ils tranchent. Bien, quand est-ce que vous allez parler, vous, dans votre émission, de ce sujet du référendum d'initiative populaire qui permettrait donc aux Français de contrôler un petit peu l'État UMP et arrêter de pleurnicher sur ce qui se passe.
Salut Mermé, c'est François dans les Alpes. Avec un copain, on a bien réfléchi, on a trouvé ce qu'on pouvait faire avec 150 milliards d'euros au lieu de faire la guerre en Irak. On peut peut-être persuader Zidane de rejouer en équipe de France. Ou Raymond Coppa, ou Platini, enfin n'importe qui quoi. Voilà, on s'est bien concentré, on a cherché la plus grosse connerie et on était fiers de nous.
C'est Sophia de Lyon. Je viens d'entendre dans l'émission qui vient de passer de 5 à 6, Derrida qui parlait des théocraties arabo-musulmanes. Donc je voulais juste reprendre la définition de théocratie qui est, selon Spinoza, un gouvernement où les détenteurs de l'autorité publique sont considérés comme les vicaires, les ministres de Dieu. Le régime théocratique des Hébreux désigne le fait que Dieu est institué par l'Alliance comme le vrai souverain de l'État. Donc je voulais juste dire qu'il n'y a pas que les régimes arabo-musulmans qui sont théocratiques. Je voudrais juste rappeler que l'État d'Israël est un régime qui se dit démocratique mais qui est théocratique puisqu'il n'y a pas de constitution dans cet État et que pour être israélien, il faut être juif. Donc voilà, donc il n'y a pas que les régimes arabo-musulmans qui sont théocratiques, il y en a un peu marre de toujours voir la merde chez les autres, et spécialement chez les musulmans, et jamais, jamais, jamais dans ce qu'on considère être, pas l'Europe, puisqu'Israël n'est pas en Europe, mais ce qu'on considère être dans l'axe du bien, c'est-à-dire le Nord, les pays dits occidentalisés. Je vous remercie, au revoir.
C'est Gérard, auprès de Caen, dans le Calvados. Merci pour cette émission sur l'IP, ça m'a rappelé de bons souvenirs. J'ai moi-même vendu avec la CFDT sur Caen, Hérouville, des montres du trésor de guerre de l'époque. Et puis, je suis éducateur, et depuis plus de 20 ans maintenant, je suis responsable d'un lieu de vie. C'est un petit peu l'autogestion aussi, et l'IP n'est peut-être pas pour rien. Et puis j'ai aussi dans mes souvenirs, dans mon grenier, un chômageopoly. Ça, c'est un jeu basé sur le contraire du Monopoly, qui a été conçu et réalisé par l'ELIP. Je m'en souviens bien. Salut.
Et ben voilà, des messages sur le répondeur de toutes sortes, ça va dans tous les sens. Merci pour ces précieux signaux que vous nous adressez chaque jour. au 01 56 40 37 37. Vous connaissez le numéro. Alors aujourd'hui, on va se débaucher les oreilles. On va parler avec le cochon qui sommeille en nous. Et oui, pendant une heure, ça va durer. Vous n'êtes pas obligé de rester. On va se trouver avec un livre magnifique qui sort chez Fayard là dans quelques jours et qui est une anthologie de la poésie érotique française. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus d'anthologie de cette sorte. Et voilà, c'est Jean-Paul Goujon, quelqu'un qui nous avait donné des coups de main autrefois quand on faisait des émissions érotiques l'après-midi sur France Inter, il y a bien longtemps déjà, un auteur très très pointu et très érudit, notamment de Pierre Louis, dont il est un des spécialistes, mais beaucoup d'autres auteurs. Donc voilà, une heure de délices. Mais auparavant, d'autres messages. Je rappelle encore le numéro 01 56 40 37 37.
Salut, alors je viens d'entendre l'émission sur l'IP depuis l'étranger, parce que je vis à l'étranger. Et je suis bisontin de cœur, sinon de fait, puisque moi je n'y vis pas, puis j'ai même pas grandi là, donc. Mais enfin c'est ma ville quand même. Et ça m'a fait bien plaisir d'entendre ça, même si je suis trop jeune pour avoir connu l'IP. Enfin j'en ai quand même beaucoup entendu parler. Et puis dire un petit coucou à mon ami Pierrot qui est serveur au Carpe Diem. Et qui chante tous les jeudis, si je ne m'abuse, au Carpe Diem à Besançon. Alors si vous êtes à Besançon, allez donc écouter, ça vaut le coup. Allez, salut.
Écoutez, si je me suis pas trompé de numéro, c'est le numéro que je viens d'entendre à la fin de l'émission « Là-bas si j'y suis » sur France Inter, l'émission sur l'IP. Bon, comme d'habitude, c'est une émission vraiment de plus en plus gauchiste, anti-économique, puisqu'il faut relire Marx. On ne parle que des scandales économiques. C'est un parti pris de très mauvaise foi et de mauvaise information et permanent contre les entreprises qui emploient du monde ou qui investissent. Et c'est une émission qui entretient avec force, vivacité, la lutte des classes. Je trouve ça scandaleux pour France Inter. Et ça fait des années que ça dure. Voilà. J'espère que ça sera repris par le responsable de l'émission, qui bien sûr s'engrossera parce que il est généreux avec l'argent des autres. Merci.
Je te remercie pour l'émission qu'on a attendue aujourd'hui. Ça fait du bien d'entendre le témoignage d'Elip. C'est un combat qui dure depuis longtemps. Et donc ça me rappelle la lutte du Larzac. On avait combattu avec eux. C'était les premiers slogans qu'on entendait à cette époque-là. Paysans, ouvriers, même combat. Et surtout, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Par rapport aux propos qu'on a entendus ce matin du président Schneier, d'un groupe qui est allé en Chine avec Monsieur Chirac pour vendre sa marchandise. Parce que quand même, il a quand même déclaré ce matin à la radio que la démocratie n'était sans doute pas le meilleur régime pour permettre un développement. Il y avait qu'à voir avec l'Inde. L'Inde était quand même un pays démocratique, mais sous-développé par rapport à la Chine. Alors d'avoir entendu ça ce matin, ça m'avait rendu malade. Alors vraiment, ça m'a fait du bien d'entendre ça, parce que vraiment, aujourd'hui, on voit contre qui on doit se battre, si on veut aujourd'hui, que tout le monde puisse vivre sur cette terre, quoi. Et continuons la lutte, et continuons à nous battre contre ces capitalistes qui veulent faire de nous simplement de la matière première à vendre. Voilà, c'était Christine du Larzac, et aussi de Millau.
C'est Gérard de Dordogne. J'aimerais faire passer une info aux auditeurs. Les Bio d'Aquitaine, en partenariat avec les Bio du Gers, ont mis en place depuis 4 ans une expérimentation pour développer les semences bio en grande culture. Seulement voilà, nous apprenons que non loin d'une de nos parcelles, conduites bien sûr en bio, on y trouve du maïs transgénique. Le ministère avait été informé pourtant de l'endroit où on mettait les expérimentations. Ça veut bien dire qu'on respecte les bio, la preuve. C'est intolérable, nous pouvons prendre le risque de continuer l'expérimentation sur cette parcelle. C'est pourquoi nous la détruirons nous-mêmes. C'est 4 ans de recherche qui s'effondrent. Si comme nous, vous pensez que les OGM n'ont pas à nous envahir, si comme nous, cette situation vous révolte, alors rejoignez-nous mercredi 13 octobre à Pessoulès, dans le Gers, à 18h précise. À bientôt.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde et bonjour France Inter. Voilà, je vous appelle parce qu'il est en train de se passer une catastrophe. C'est le démembrement de l'Hôtel Dieu, hôpital qui est peut-être le plus vieux de Paris, et même certainement le plus vieux de Paris. Et donc, le personnel de santé se trouve dans une situation incroyable. Il y a un démembrement de tous les services. Donc, pour ce faire, il y aura une grande pétition et une grande réunion qui sera le samedi 16 octobre sur le parvis de Notre-Dame devant l'Hôtel Dieu. Et il y aura un cortège qui va aller de Saint-Vincent-de-Paul à Port-Royal et on se dirigera ensemble vers le ministère de la Santé. Donc tout le monde qui est concerné par l'hôpital, et nous sommes tous concernés par l'hôpital, il faut absolument se réunir pour que cet hôpital public ne soit pas bradé au service du palais de justice. Voilà.
Dans cette grotte obscure, incessamment, s'allume un feu plus violent que celui de Vulcain.
Dans cette grotte obscure, incessamment s'allume un feu plus violent que celui de Vulcain.
Et c'est là qu'en secret, sur une molle enclume, l'écu, en bondissant, frappe le genre humain.
Et c'est là qu'en secret, sur une molle enclume, l'écu, en bondissant, frappe le genre humain.
Un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour.
Flight number 2, arriving from New York.
Te voici devant la psyché. Où toute la chambre s'afflige, tu balances la souple tige d'un calice plein de péché. Maintenant que te voilà prise aux saveurs du fruit que tu mords, tu te caresses sans remords, toute pâle de gourmandise. La volupté que tu poursuis t'abuse de son artifice, pendant qu'au gré d'un vain délice vont tes soupirs évanouis. Extrait de l'appartement des jeunes filles de Roger Allard, 1914.
Phallus en l'air, coudrier nain. Les enfants du Péloponnèse ont de jolis palmiers en zinc pour enculer les Polonaises. Guillaume Apollinaire ou Alfred Jarry.
Lorsqu'une femme maligne de son corps forme un cerceau, fouteur, glissez votre pine dans la bonde du conneau. Qu'un autre la foute en bouche et la garce au même instant reçoit une double douche. Rien n'est plus divertissant. Extrait de L'art de foutre en 40 manières, 1789.
Retirez-vous, censeurs atrabilières, fuyez des veaux hypocrites ou fous, prunudes, guenons et vous, vieilles mégères, nos doux transports ne sont point faits pour vous. Ainsi s'adressait Mirabeau au peuple puritain, alors qu'il était en compagnie de la belle Sophie Monnier. Et ça peut nous servir de sésame pour cette heure que nous allons passer, vous avez compris, autour d'un livre absolument formidable qui sort ces jours-ci de Jean-Paul Goujon, un choix de poésie
de poésie seulement, hein, c'est pas toute la littérature, ce serait énorme, mais de la poésie érotique française. Alors, c'est un vaste sujet, c'est un merveilleux sujet, c'est un sujet mystérieux, et Robert Desnos, qui en 1923 publiait un ouvrage de réflexion sur l'érotisme, disait aussi bien quel homme préoccupé de l'infini, dans le temps et l'espace, n'a pas construit cette érotique dans le secret de son âme, quel homme soucieux de poésie, inquiet des mystères contingents ou éloignés, n'aime pas à se retirer dans cette retraite spirituelle où l'amour est à la fois pur et licencieux dans l'absolu. Voilà, il n'y aurait plus qu'à tirer le rideau, ou plutôt le verrou. Oui, le verrou, vous pensez à Fragonard, vous pensez au hasard heureux de l'escarpolette. Eh bien, vous pensez juste, et vous pensez, là, on peut peut-être souligner un trait de notre culture, la française, en matière d'érotisme. Nous avons un art érotique particulier, non pas que nous soyons en cela les premiers, mais nous avons quelque chose de particulier qui nous vient de probablement des Lumières du XVIIIe siècle et d'un Fragonard par exemple qui pourrait nous avoir peint tout le décor de cette émission. C'est jusqu'à 18h. C'est là-bas si j'y suis, ça n'est pas la coulée douce, c'est l'anthologie de la poésie érotique française.
Dévaste-moi et souffle-moi, envahis-moi et pille-moi, dépense-moi, gaspille-moi. Saccage-moi, dilapide-moi, lapide-moi, érape-moi, liquide-moi, émiette-moi. Ravage-moi, et presse-moi, et puis broie-moi, et puis noie-moi, et puis bois-moi, et caille-moi. Colonise-moi, piétine-moi, déglutis-moi, extermine-moi, ravage-moi, délabre-moi. Ratisse-moi, corrode-moi, démantèle-moi, désintègre-moi, massacre-moi, écrabouille-moi.
De sa bouche, il cherchait une source tarie, dont la mousse arrêtait le cours interrompu, et sa lèvre mouillait une lèvre fleurie pour étancher sa soif en son cœur non repu. D'une tige éperdue, aspirant la corolle, farouche, elle absorbait chaque tressaillement, consacrant son désir à quelque course folle dont le but est l'étrange ivresse d'un moment. Le silence imprimait de plaintives minutes, leur corps ne comptait plus les successives chutes vers ce gouffre où notre innocence s'immola. Soudain, l'ombre exila la lumière éblouie. Et, dans un même élan, la fleur épanouie répandit sa rosée et la source coula. Jacques Brindejon Offenbach, 1927.
En voyant sa dame au matin près du feu où elle se lasse, où est le cœur que jase se lasse de regarder son beau tétin,
Alors se dit, main bon tatin, quand on s'entretient face à face en voyant sa dame au matin en un beau corset de satin, quand on la tient et on l'embrasse, c'est ce que tout ennui efface, maugré faux d'Angier le matin en voyant sa dame au matin. Voilà un petit poème anonyme de 1480. Et on a l'impression de voir un instantané d'aujourd'hui, de nos vies intimes, évidemment, il y a des siècles. Voilà, c'était les mêmes regards, c'était les mêmes interrogations, c'était les mêmes attirances, c'était les mêmes mystères, c'était le même infracassable noyau de nuit dont parlait André Breton, qui nous hante, qui hante notre commune humanité depuis si longtemps. Et dans ce livre, et ben voilà, ça se donne encore à nouveau à voir et à partager et à vibrer, et avec ce plaisir évidemment de l'interdit. Ce plaisir de l'interdit, ou ce plaisir de subvertir l'interdit, n'est plus ce qu'il était. On a connu des moments où c'était vraiment, il fallait lutter contre une censure. Aujourd'hui, on est plus dans un plaisir, dans une délectation. Ce combat est tant accompli, mais évidemment, rien n'est jamais acquis. On nous l'a dit et on nous l'a redit. Donc, rencontre avec Jean-Paul Goujon, l'auteur de cette anthologie de la poésie érotique française.
Est-ce que tu sais ce que c'est ça ? Est-ce que tu sais ce que c'est ça ?
Retirez-vous, censeurs atrabiliaires, fuyez des veaux hypocrites ou fous, prumus de guenons et vous, vieilles mégères, nos doux transports ne sont pas faits pour vous. Voilà, c'est attribué au fougueux Mirabeau, dites-vous, Jean-Paul Goujon, et c'est un avertissement aux auditeurs et censeurs atrabiliaires qui pourraient accidentellement être à l'écoute. De quoi nous allons parler ? Eh bien, nous allons parler de votre bouquin qui sort ces jours-ci chez Fayard, une anthologie de la poésie érotique française. Est-ce que, Jean-Paul, il y a vraiment beaucoup d'auditeurs qui vont être scandalisés aujourd'hui par ce que nous allons entendre?
Je sais pas, peut-être un certain nombre d'entre eux demandent-ils à être scandalisés aussi.
Oui, oui.
Mais
je veux dire par là, est-ce qu'un bouquin comme celui-là, c'est énorme, il y a quoi, il y a 1000 poèmes?
Il y a, oui, 900 ou 1000 poèmes, en effet.
Poèmes, chansons, etc. Est-ce que ça aurait pu être publié il y a 30 ou 40 ans dans notre bel hexagone, comme ça, normalement, comme un livre parmi d'autres, ou presque?
Non, ça n'aurait pas été un livre parmi d'autres. Je pense que certains textes auraient posé problème. Oui. Parce qu'on admet la poésie galante, mais disons la poésie érotique...
Vous savez à quoi vous allez vous exposer, c'est qu'on vous demande une définition de l'érotisme.
Ah ben c'est très simple, c'est un grand mystère.
Voilà, c'est la réponse.
Oui. Oui. C'est quelque chose qui est justement très presque incongru dans le monde où on vit, parce que le mystère a été balayé de toutes les avenues. On essaye de tout rationaliser, puis on se trouve en présence de quelque chose qui fait appel à d'autres choses que la raison, la logique, ou ne parlons pas du profit, du capital et de tout ça.
Il y a 30 ou 40 ans, ça a été une bataille, on l'oublie aujourd'hui, tant mieux d'ailleurs, mais une bataille héroïque que celle d'un certain nombre d'intellectuels, d'éditeurs qui se sont battus pour qu'un certain nombre de textes et d'auteurs soient portés à la connaissance de tous. Hein. Je pense à Beauvert.
À Beauvert avec l'affaire Sade, qui remonte, je crois, déjà aux années 50. Et puis il y a eu Régine Deforges qui, on l'oublie, parce qu'elle a beaucoup de succès en tant que romancière, etc., mais a été en but à une véritable déluge de condamnations.
L'Osfeld,
bon, qui est mort, mais qui a, oui, endetté comme une mule, comme il disait. C'était un peu des pionniers. Bon, Jean-Jacques Beauvert est toujours parmi nous et il vient de sortir ses mémoires, comme vous savez, un tome. Effectivement, alors 30 ans, 40 ans, c'est pas très loin. Vous avez vu il y a quelques mois, je crois, l'ancien ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin est mort. Il s'était illustré notamment dans des interdictions.
Alors, vous nous dites dans la préface,
ce que c'est cette poésie. Hein. C'est pas toute la littérature érotique, parce qu'il il faudrait une bibliothèque entière. Ce serait un enfer, d'ailleurs. On appelle ça un enfer. Ça existe déjà.
Ça existe à la Bibliothèque nationale.
Qu'est-ce que ça raconte sur nous? Qu'est-ce que la poésie érotique dit d'une société? Qu'est-ce qu'elle veut cacher?
Ce qu'elle veut cacher est le privé, la sphère du privé, de l'intime, qui est un peu à la mode aujourd'hui, mais on n'a pas l'impression que ça soit dans toutes les directions. Et ça révèle, ou ça exprime plutôt une chose, mais qui en fait est assez naturelle, mais qui a été écartée pendant pas mal de siècles de la littérature. C'est d'ailleurs très curieux à voir historiquement, parce que la poésie érotique était admise comme un genre, on peut dire jusqu'à l'époque de Louis XIV. Alors là, il y a eu une censure très forte, parce qu'elle était liée à la libre pensée aussi, à toute une philosophie de l'existence qui, disons, refusait la religion, le péché originel, l'adultère, etc.
Est-ce que sans ces interdits, cette poésie existerait?
Non, parce que, comme disait je ne sais plus qui, ce qui est admirable dans la censure, c'est qu'elle fait croire qu'il y a des livres dangereux.
Ouais, c'est ça.
N'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, il y a toujours une production de poésie érotique, mais je ne sais pas si est-ce qu'elle naît de liberté? Je ne dis pas qu'il faille une certaine contrainte, mais enfin, il y a tout un jeu.
Si c'est pas sous le manteau, ça perd sa force.
Oui, vous comprenez, un livre que vous trouvez à la bibliothèque de la gare avant de prendre le TGV n'aura pas quand même le même impact qu'un livre sous le manteau.
Donc il faudrait que votre livre soit interdit pour bien faire.
Ah, ça serait son destin, oui.
Oui, ce serait pas mal.
Ça serait pas mal.
Est-ce que tu sais ce que c'était ça? Est-ce que tu sais ce que c'était ça? Est-ce que tu sais ce que c'était ça?
Lime-moi mon cadenas, serrurier de Cythère. Lime-moi mon cadenas. Ne crains pas d'en trop faire, ne me ménage pas. Lime-moi. On me fourrait au couvent, par ordre de ma mère. On me fourrait au couvent. Mais mon cou pour Cythère en décide autrement. On me fout. On me fourrait au couvent. Vite, au combat, chevalier. Hortense te défie. Vite, au combat, chevalier. Mais le chevalier plie. Hortense a beau crier. Vite au con. Vite au combat, chevalier.
Mon assauté, mon doux relot, mon doux ciné, mon amoureux, mon mignon, mon gentil falot, ne soyez jamais souffreteux, allons nous en jouer nous deux, ne vivez plus sur le commun, frappez fort, soyez courageux, je vous rendrai deux coups pour un, n'épargnez point votre maillot et ne soyez jamais honteux. Comme la taupe et le mulot, fouillant la terre d'entour d'eux, fouillez et ne soyez piteux. Comme une anguille de melun, glissez-vous au fin fond du creux, je vous rendrai deux coups pour un. Or, fouillez bien au fond du pot, car le brouet est savoureux, vous y savez votre tripot, pour y bien jouer en tout lieu. Or, laissez tous vos autres jeux sans vous trop tenir à aucun. Forgez, frappez, soyez joyeux. Je vous rendrai deux coups pour un. Prince, prince, j'ai le con précieux, doux et sucre, mais il est brun. Frappez un coup aventureux, je vous rendrai deux coups pour un. Anonyme, 1532.
Poésie érotique, pour moi, il y a deux termes, poésie et érotique. J'ai essayé quand même aussi de ne pas trop oublier la poésie, de prendre des pièces qui ne soient pas seulement érotiques, parce que, bon, ça serait uniquement des choses hardes, disons. Et dans la poésie elle-même, j'ai essayé de laisser une certaine place, un certain humour, parce que je trouve très intéressant l'alliance de l'humour, de l'ironie avec l'érotisme. Ça donne une charge encore plus forte, un piquant encore plus plus fort à l'érotisme, je crois.
Vous avez découpé le bouquin en chapitres, sociologie, solitude, politique, sentiment de famille, hétérodoxe, bizarrerie et raffinement, une vague de rêve. Qu'est-ce que c'est que cette construction?
Mais cette construction avait pour but...
Je rigole parce que je tombe sur ce petit poème
de Gautier.
De Théophile Gautier, qui nous dit, qui nous parle du bonheur parfait, que les chiens sont heureux dans leur humeur badine, ils se sucent lapine, ils s'enculent entre eux, que les chiens sont heureux.
Oui,
c'est une belle réflexion aussi.
Belle réflexion de Gautier.
Quelqu'un qui aime les bêtes.
Oui. Qui aime les bêtes en plus. Oui, alors, ce que j'ai voulu, c'est me démarquer un peu des anthologies habituelles qu'il y a eu avant, et essayer d'éviter un peu la séquence chronologique, c'est-à-dire l'érotisme au Moyen-Âge, l'érotisme sous la Renaissance, l'érotisme, etc. C'est un peu fatigant, c'est un peu monotone, et il me semble que cette division par petits chapitres thématiques, il y a l'esprit des dames, il y a un chapitre sur les cocus, un autre sur la vérole, sur le mariage, etc. Est plus propre à rendre sensible la variété de la poésie érotique, qui n'est pas uniquement, comme on croit, la simple répétition de mots ou de situations obscènes. Il y a des choses assez énormes, assez surréalistes, presque, pourrait-on dire.
Et beaucoup de choses très touchantes, hein.
Oui, également.
C'est toujours touchant de voir un poème du 15e siècle ou du 16e siècle qu'on aurait pu écrire hier, parce que la chose qu'on faisait au 16e siècle ou aujourd'hui, c'est la même, poussée par les mêmes élans.
On suppose, oui.
Oui, alors, il y a beaucoup d'auteurs qu'on connaît, hein. Il y a quand même pas mal d'écrivains.
Oui,
je tombe sur Raymond Radiguet, il y a bien pas mal d'Apollinaire, il y a du Baudelaire, là je vois Voltaire, je vois Verlaine, Théophile Gautier, on en a parlé, Glatigny, que je connais peu.
Ah, Saint-Parnassien, intéressant.
Ah oui?
Ah oui, oui. Donc, très très amusant, hein, très délirant. Dans le pastiche.
La Chine du Bellet, etc. Tous ces auteurs qu'on apprend à l'école ou qu'on lit, la plupart des...
Oui, on ne les trouve pas dans les manuels scolaires, ces pièces-là, en général.
Mais finalement, on pourrait aller plus vite en demandant qui n'a pas, parmi ces célébrités littéraires, écrit d'érotique.
Oui. Alors, la grande interrogation, c'est, je le dis un peu dans ma préface, c'est Victor Hugo. Parce qu'il y a une ou deux petites pièces, mais qui n'ont pas grand intérêt, qui sont un peu des badineries, alors que nous savons que c'était un homme qui avait des appétits sexuels extrêmement forts jusque dans sa verte vieillesse. Mais au fond, c'est par écrit, c'est un chaste. Ce qui est assez surprenant. Mais vous avez, par exemple, puisque vous parlez d'auteurs inattendus, si je me trompe pas, un poème érotique de jeunesse de Jules Verne.
Ah oui.
Lamentation d'un poil du cul de femme.
Oui.
C'est assez étonnant quand on pense que Jules Verne a écrit des ouvrages que lisaient tous les enfants.
Il est dur lorsque sur la terre, dans le bonheur, on a vécu de mourir triste et solitaire sur les ruines d'un vieux cul. Jadis, dans une forêt vierge, je fus planté sur le versant qu'un pur filet d'urine asperge, et parfois un filet de sang. Qui pourrait deviner que, oui, effectivement, c'est de Jules Verne.
C'est plutôt un joyeux carabin que Jules Verne. Alors c'est ça le plaisir, c'est de trouver des choses inattendues, d'auteurs, peut-être pas austères, mais enfin qui sont pas réputés pour leur érotisme.
C'est-à-dire que depuis toujours, évidemment, la poésie érotique met en cause l'ordre des choses.
Oui. Hein,
et du coup, le bon goût aussi est remis en cause.
Absolument.
Hein, c'est ça?
Oui, mais c'est très bien.
Hein. Oui. On a des chansons de corps de garde.
Ah oui, il y a la scatologie, il y a un hymne d'un vidangeur qui dit aimer les étrons, etc. Oui, mais bon, pourquoi pas? Et vous avez vu, il y a un chapitre sur ce que j'appelle les homosexualités aussi. Qui était un peu exclu des anthologies. Il faut bien dire que les anthologies, souvent, étaient homophobes.
Et misogynes?
Et, misogyne. Alors, il y a un chapitre sur la misogynie également, parce qu'il y a une poésie érotique qui est misogyne. Il faut pas se leurrer à ce sujet.
J'aime, aux pâles beautés, tes sourcils surbaissés, d'où semble couler des ténèbres.
J'aime, opale beauté, tes sourcils surbaissés, d'où semble couler des ténèbres.
Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent des pensées qui ne sont pas du tout funèbres. Tes yeux qui sont d'accord avec tes noirs cheveux, avec ta crinière élastique.
Avec ta crinière élastique, tes yeux languissamment me disent
« Si tu veux, amant de la muse plastique, suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité. »
Amant de la muse plastique.
Et tous les goûts que tu professes.
Et tous les goûts que tu professes.
Tu pourras constater notre véracité, depuis le nombril jusqu'aux fesses.
Tu pourras constater notre véracité.
Tu trouveras au bout de deux seins bien lourds, deux larges médailles de bronze.
Deux larges médailles de bronze.
Et sous un ventre uni, doux comme du velours, bistré comme la peau d'un bonze.
Doux comme du velours.
Une riche toison.
Une riche toison.
Qui vraiment est la sœur de cette énorme chevelure souple et frisée.
Souple et frisée.
Et qui t'égale en épaisseur, nuit sans étoiles, nuit obscure.
Et qui t'égale en épaisseur, nuit sans étoiles, nuit obscure.
Charles Baudelaire. Un jeune amant me rencontra, seulette, dans la prairie. Et tout d'abord, il m'embrassa, d'une façon jolie, me disant « Belle, c'est par là que le plaisir commence !» Et toujours va qui danse. Enflammée par ce doux baiser, soudain sous ma gorgerette, je sentis qu'il osait glisser une main indiscrète. Longtemps, elle s'y promena malgré ma résistance. Tandis qu'une main mesurait de mon sein l'architecture, l'autre, doucement, s'égarait plus bas que la ceinture. J'avais beau de cette main-là réprimer la licence. Mais connaissant que son dessein m'a rendue tout inquiète, le berger retira sa main. La paix fut bientôt faite. Un doigt seulement y resta. Oh, quel doigt quand j'y pense. Anonyme.
Un jour sur le boulevard, je l'ai traversé dans un sachet. Tu fais un passé avec un sourire et tu me dis de la place. Ça vous plairait-il que je vous en menace? Bref, je suis montée sans savoir pourquoi. Tu m'as emmenée jusqu'au fond du bois. Tu m'as pris la main sans que je prenne la bouche. Tu m'as pris les cheveux, tu m'as pris la bouche. Dans ces conditions, dame, c'était fatal. Il y avait bien des chances pour que ça tourne mal. Tu m'as possédé par surprise. Et j'ai l'impression que j'ai dû faire une bêtise. Certes, j'aurais dû dire non, 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 non. Mais voilà, j'ai dit oui, 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 oui. Seulement j'ai peur à présent que tu méprises. Et cependant tu le sais, je n'ai pas fait exprès. Ce qui est fait, fait, n'en parlons jamais. Tu m'as posé des balles surprises.
Vous marchez d'un tel pas, madame, je suis prêt à fondre.
Monsieur, je ne vous connais pas, je n'ai rien à vous répondre.
Que de poils sur votre manche. Oh. Peut-on voir ceux de votre ventre?
Monsieur, vous êtes un cochon. Laissez-moi tranquille, je rentre.
Vous masturbe-t-on par devant, madame, quand on vous encule? Oh.
Mais c'était bien, oh là là.
Attends, micro. Attends, un micro, hop, c'est bon.
Attends.
Vous masturbe-t-on par devant, madame, quand on vous encule?
Dieu, cet homme est énervant. Il va me rendre ridicule.
Madame, j'ai la pine en l'air. J'aurais besoin de votre bouche.
Mais vous êtes toqué, mon cher. À quelle heure est-ce qu'on vous couche?
Allons, nous tirerons 6 coups. Montez chez moi. Je vous enfile.
Ah, oh, je veux bien. Mais dépêchez-vous. Dans une heure, je dîne en ville.
« petits poèmes de Pierre-Louis parmi... Pierre-Louis, oui, l'auteur du Roi Pozzol, par exemple, n'a pas écrit que le Roi Pozzol, il a écrit énormément, mais une production extraordinaire de ces petits poèmes tout à fait inconvenants, absolument scandaleux sur une antenne nationale à 17h45 et même exactement 46. Je partage tout à fait votre point de vue avec toute la tartufferie, l'hypocrisie qui sied et qui a longtemps augmenté probablement le plaisir. C'est Anatole France qui disait qu'on ne remerciera jamais assez la religion d'avoir fait de l'amour un péché. Alors voilà, il y a un plaisir évidemment dans la subversion, dans le paravent, dans le masque, dans la pénombre, dans le suggéré, dans le suscité, dans tout ce que nous, et finalement nous ne savons pas, nous n'en savons absolument rien. Ce qu'on sait, c'est que ça mène toujours un désordre, le désordre amoureux, et qui n'est jamais nouveau, qui est toujours renouvelé sans cesse, et qui est là, qui nous préoccupe. Si à la fin d'une journée on avait une machine pour compter combien de fois nous avons pensé à ça, combien de temps nous avons consacré à penser à ça, on s'apercevrait qu'on n'a pas pensé à autre chose dans une journée. On est avec Jean-Paul Goujon autour de son livre qui sort, Anthologie de la poésie érotique chez Fayard.
Comment on a écrit ça? Comment ces auteurs ont-ils écrit ça? Vous allez me dire, il y a des tas d'auteurs différents. Des conditions.
Non, ce sont des poètes. Je pense qu'ils ont élaboré leur texte, et même ceux qui semblent des chansons de carabin, des chansons populaires, on voit le jeu des rimes, on voit, bon, c'est pas une grandissime poésie, mais c'est très rare. Je pense qu'ils aient réussi à improviser quelque chose. Certains étaient doués, des gens, bon, comme Apollinaire, sans doute, Verlaine, bon, également. Mais il y a un travail. Et c'est assez paradoxal de penser que ce qui n'est qu'érotisme, que joie, chose plutôt légère, exige un travail.
Votre favori dans tout ça, je suis sûr que c'est un poème de Pierre-Louis.
Ah oui, il y en a un qui est très drôle. Voilà, 376, ben, je peux le lire si vous voulez.
Voilà, c'est ce que voilà. C'était un peu...
Au bal, madame, qu'il fait chaud ce soir, le bal est morne, ridicule. Venez dans ce cabinet noir et souffrez que je vous encule. Vous voulez bien? C'est très gentil. Vos fesses me rendaient malade. La chair forte, le trou petit. Parfait. Vous aimez l'enculade? Oui, pas avec votre mari. Je le comprends. Mais en soirée, c'est votre plaisir favori. Baissez-vous, un peu plus cambré.
Ce qui est extraordinaire chez Pierre-Louis, c'est la production. Il a une production énorme.
Immense, hein. Parce que il a aussi une production, je veux pas dire chasse, mais enfin officielle. Il a écrit, bon, des romans, des contes, etc. Mais la production de surtout de poèmes, enfin de littérature érotique est énorme. On ne sait pas combien il a pu écrire de poèmes, parce que beaucoup restent encore inédits, mais plusieurs milliers à coup sûr. Et avec une verve jamais fatiguée.
Est-ce que ça hypothèque sa renommée aujourd'hui d'avoir commis des choses pareilles?
Au contraire, ça l'a rendu plus connu, parce que il y a eu de nombreuses éditions et rééditions de ses œuvres. Rééditions, effectivement, qui, il y a 30 ans, n'auraient pas été tellement possibles, mais qui maintenant se multiplient depuis, je sais pas, 10, 15, 20 ans, et qui font que, bon, il a cette réputation. Il était déjà considéré comme un libertin, mais maintenant, on considère comme un maître de la littérature érotique.
Dada. Et je leur montre entre mes fesses un brin de réséda. Espérez que bientôt toutes les aubépines fleuriront sans succès là et les buissons, et que vos mains tiendront au lieu de fleurs l'épine fraîche et rose de tous les verts garçons. Lettre de Marie de Régnier à son amant Pierre-Louis.
Une étoile caresse le sein d'une négresse. Un escargot lèche mille nichons. Tout jaillit le pipi bleu du pape roi. Ainsi soit-il, Joan Miró. Je sais relever mon jupon et dire à papa, sors ta pine pour que je me la plante au cou. Je bois du foutre à la choupine, je me fais gousser par ma sœur et souvent je me branle encore. Mais peut-être que le bonheur est dans les choses que j'ignore. Pierre-Louis.
Est-ce qu'on trouve du production analogue dans toutes les cultures ?
Écoutez, y a une littérature qui se rapproche un peu de la littérature française à cet égard érotique, c'est l'italienne, parce qu'il y a un peu une tradition ininterrompue depuis l'origine, c'est-à-dire depuis la Renaissance, jusqu'au XXe siècle, et l'un des plus grands poètes érotiques de tous les temps, le Vénitien Giorgio Baffo du XVIIIe siècle, qui est absolu. Il ressemble à Louis un peu. Il est hilarant. Rien que les titres de ses poèmes sont à mourir de rire. On a publié dernièrement, je crois que c'est chez Zulma, une traduction. Il y a par exemple différence entre Descartes et l'auteur. Alors c'est en vers. Hein, je paraphrase. Descartes dit je pense donc je suis. Moi je dis je fous donc je suis. Tout est comme ça.
Jean-Paul Goujon, vous vivez en Espagne, vous enseignez à Séville. Oui. On trouve une poésie érotique espagnole.
On la trouve ancienne, mais qui a été très cachée parce que extrêmement réprimée par la société et surtout par l'Église, qui est restée toute puissante jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors il y a surtout au Moyen Âge et au XVIe siècle, il y a quelques poèmes qui ont été publiés bien après, effectivement. Mais ce n'est pas comme en France, parce qu'en France il y a une tradition, puisqu'en Italie encore ininterrompue, puisque vous avez vu dans mon livre, il y a certains poèmes qui datent de 1450-1480, le 15e siècle, la fin du Moyen-Âge, jusqu'à nos jours.
Jusqu'à Jean Genet, vous vous arrêtez à Jean
Genet. Oui, parce que j'ai dit que l'admirable...
Un assassin si beau qu'il ne fait pas lire le jour.
Ah oui, ça c'est...
Magnifique.
Ça, c'est son chef-d'œuvre poétique.
Ah, quitter au matin ton corps d'ambre et de lait, plus flexible qu'un fauve heureux qui se couche, emportant la saveur de l'amour dans ma bouche. Ah, les petites filles qui relèvent leurs robes et se branlent dans les buissons ou dans les musées derrière les Apollos en plâtre, pendant que leur mère compare la queue de la statue à celle de son mari et soupire « Ah, oh, si mon mari lui ressemblait !» Louis Aragon ou Benjamin Perret. À l'aurore, au petit matin, livré aux songes et aux mensonges, ouverte aux baisers clandestins, sa moniche couleur d'orange évoquait un cratère éteint. Guillaume Apollinaire. À l'aurore, au petit matin, livré aux songes et aux mensonges, ouverte aux baisers clandestins, sa moniche couleur d'orange évoquait un cratère éteint. Guillaume Apollinaire.
Voilà, merci à tous. Merci à nos deux formidables comédiennes, Sylvie Gravagna et Florence Bott. Merci à Jean-Paul Goujon. Je rappelle encore une fois son bouquin qui sort chez Fayard, Anthologie de la poésie érotique. Anthologie de la poésie érotique, et voilà tout. Aujourd'hui à la technique, Anne Arnstam et Jean-Philippe Jeanne.
Yann Chouquet a choisi les musiques de cette émission d'aujourd'hui. Christophe Imbert s'occupe du répondeur, ça va chauffer. 01 56 40 37 37. Et Pascariello fait tout le reste. C'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Je rappelle encore une fois le numéro du répondeur, 01 56 40 37 37. Et le mail daniel.mermet@radiofrance.com.